Europe 1, il est 7h.
Il n'y a pas, je pense, de cancer qui, à un moment donné, n'ait pas été touché par un problème de pénurie.
Voilà, ce professeur, membre de la Ligue contre le cancer, sonne l'alerte. Certains médicaments anticancéreux sont en rupture de stock actuellement. Conséquence de la crise sanitaire et de la délocalisation de la production, on va tout vous expliquer. Apaiser les blessures, réparer le sentiment d'abandon. Emmanuel Macron reçoit les principaux représentants d'associations Arki à l'Elysée ce matin. Ses auxiliaires de l'armée française demandent à l'État de reconnaître leur préjudice. La politique avec une finale. Yannick Jadot, Sandrine Rousseau chez les Verts à l'issue de la primaire écologiste. Duel beaucoup plus serré que prévu. Et puis le football. Paris caracole en tête du classement après son succès 2-1 hier soir.
Dimitri Pavlenko.
Votre matinale info sur Europe 1.
Le journal Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On parle beaucoup de la pénurie de semi-conducteurs ou de matériaux de construction, mais il y en a une autre qui concerne directement notre santé, la pénurie de médicaments et notamment les traitements anticancéreux. Le problème ne date pas d'hier. Le professeur et ancien président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, sonnait déjà l'alerte sur notre antenne il y a pratiquement un an, jour pour jour. Depuis, eh bien, les choses ne se sont pas améliorées, loin de là. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour.
Là encore, c'est une histoire de délocalisation. Tout est fabriqué en Asie. Résultat, eh bien, la pénurie de médicaments s'est encore aggravée.
Oui, l'an dernier, l'Agence de sécurité du médicament a recensé près de 2500 signalements de rupture de stock, 1000 de plus que l'année précédente. En 2010, imaginez un peu, il n'y avait eu que 130 cas. Parmi les produits les plus concernés, les médicaments cardiovasculaires, les anti-infectieux et les anticancéreux.
Il n'y a pas, je pense, de cancer qui, à un moment donné, n'ait pas été touché par un problème de pénurie.
Le professeur Jean-Paul Vernant est administrateur à la Ligue contre le cancer et il est formel, ces pénuries peuvent avoir des conséquences très importantes.
Dans le cancer de la vessie, le BCG est un médicament extrêmement efficace en injection intravésicale. Or, on manque de BCG. Sanofi a décidé d'arrêter de produire le BCG et la seule alternative possible à ce moment-là, c'est de faire des cystectomies, c'est-à-dire de retirer la vessie du malade avec toutes les conséquences qu'il va subir.
La Ligue contre le cancer réclame plus de transparence et d'information à l'égard des malades, que les laboratoires pharmaceutiques soient contraints de faire 4 à 6 mois de stock et surtout que la fabrication des principes actifs soit rapatriée en Europe.
C'était justement la promesse d'Emmanuel Macron en pleine épidémie de Covid. Où en est-on des relocalisations en la matière ?
Eh bien, ça n'a pas beaucoup avancé. Il faut dire que tout ça prend du temps. Il faut construire des usines. C'est très réglementé. Il faudra donc plusieurs années. En attendant, petite victoire tricolore, le retour dès 2023 de la production de paracétamol à Roussillon dans les Pyrénées-Orientales.
Élise Dangean, journaliste santé d'Europe 1.
L'image aura valeur de symbole. Emmanuel Macron reçoit ce matin les associations de Arki à l'Elysée.
Une réception porteuse d'espoir pour ces combattants algériens recrutés par l'armée française puis abandonnés à leur sort après la signature des accords d'Évian. On fêtera d'ailleurs le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie l'année prochaine. Les Arki réclament le vote d'une loi afin que la France reconnaisse leur souffrance. L'Elysée pourrait faire un geste en ce sens. Bonjour Jacques Serret.
Bonjour.
Emmanuel Macron a prévu d'ouvrir le chantier de la réparation des Arki et le moment choisi n'est pas complètement dû au hasard.
Oui, selon son entourage, le chef de l'État s'apprête ce matin à franchir, je cite, « un nouveau pas en direction des Arki ». Il y a 5 ans, François Hollande avait reconnu les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des Arki. Aujourd'hui, Emmanuel Macron veut aller plus loin, ouvrir un nouveau chapitre. Il devrait prononcer un mot, celui de manquement, reconnaissance du manquement qui a été fait aux Arki, reconnaissance du manquement de la France à ses propres valeurs, le poids des mots conjugués au présent pour un passé extrêmement sensible et des paroles aux actes, l'Élysée annonce vouloir ouvrir le chantier de la réparation, un chantier qui inclut la dimension pécuniaire. Si aucun montant exact n'a filtré des couloirs du palais, Emmanuel Macron devrait annoncer une revalorisation des pensions de ses anciens combattants. Un geste qui n'a rien d'anodin à 7 mois de la présidentielle. Les Arki et leurs descendants constituent une communauté d'environ 800 000 personnes, autant d'électeurs traditionnellement très à droite qu'Emmanuel Macron aimerait bien convaincre. alors que le 18 mars prochain, à 3 semaines du premier tour, seront commémorés les 60 ans des accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Tiens, les Harkis, justement, il en sera question tout à l'heure à 8h40 sur Europe 1 dans le Zoom Info avec comme invité Jeannette Bougrabe, ancienne secrétaire d'État et justement fille de Harki. La crise des sous-marins à présent, on ne peut pas dire que les choses sont en train de s'arranger entre la France et ses alliés, notamment les Britanniques.
Hein. Paris vient d'annuler la rencontre prévue à Londres entre la ministre des Armées, Florence Parly, et son homologue britannique. Et pourtant, le Premier ministre anglais l'assure, notre amour de la France est indéracinable, dit Boris Johnson. On est prié de le croire. Emmanuel Macron doit par ailleurs s'entretenir par téléphone avec le président américain Joe Biden, autre acteur de ce dossier de vente de sous-marins avorté.
Situation tendue également ce matin au Mali. Le gouvernement provisoire est tout prêt de signer un accord avec les paramilitaires russes. La France menace en conséquence de retirer ses troupes.
Et la ministre des Armées est attendue aujourd'hui sur place pour tenter de ramener les autorités maliennes à la raison. On ne va pas cohabiter avec des mercenaires, prévient d'ores et déjà Florence Parly.
Il est 7h05 sur Europe 1, la politique, la primaire des écologistes opposera donc Yannick Jadot à Sandrine Rousseau. La surprise vient aussi, Christophe Dufay-Blécard, qui sépare justement les deux finalistes.
Moins de 3 points les séparent. Yannick Jadot est arrivé en tête avec 27,7% des voix, très précisément. Suffisant pour passer, mais pas assez pour se montrer totalement serein, l'eurodéputé plus concentré que jamais sur la suite.
Pour ma part, je suis extrêmement heureux de la tenue de cette primaire. On a eu 3 débats qui, je crois, ont été absolument exemplaires. 3 débats de fond. Nous allons donner la même image, l'image d'un débat de fond avec des sensibilités, mais l'image d'une famille ô combien rassemblée, ô combien aujourd'hui en capacité de gouverner, ô combien radicale quand il s'agit de gagner l'élection présidentielle.
Et de son côté, son adversaire du second tour, Sandrine Rousseau, veut rester fidèle à sa ligne, une écologie radicale.
L'écologie est aujourd'hui une priorité, c'est une urgence. Mon slogan est « Oui, les temps changent ». Levons-nous, écrivons une autre histoire de cette présidentielle, une histoire citoyenne, sociale, ambitieuse et radicale, celle d'un réveil citoyen et écologique. Vous êtes prêts et prêtes ? Je le suis. Allons-y ensemble.
Eh bien, rendez-vous du 25 au 28 septembre prochain, puisque c'est à cette date qu'aura lieu le second tour.
Allez, on termine avec le football. Le Paris Saint-Germain conforte sa place de leader de la Ligue 1.
Les Parisiens s'imposent de 2-1 face à Lyon dans le temps additionnel. 6 victoires en autant de matchs, ça va finir par épuiser l'adversité. Mais, et c'est le petit caillou sous le crampon, on s'inquiète pour Lionel Messi, ciel de la Morinerie. La star n'a pas aimé sortir avant la fin du match.
Oui, Lionel Messi rêvait sans doute d'une première au parc moins mouvementée. Le numéro 30 parisien a d'abord vu sa frappe repoussée par le poteau lors d'un coup franc en première mi-temps, mais surtout à la 76e minute, l'Argentin est remplacé à la surprise générale. Lionel Messi quitte le terrain tête basse et esquive la main tendue de son entraîneur. Mauricio Pochettino a tenté de se justifier en conférence de presse.
Tout le monde sait que l'on a des très grands joueurs dans l'équipe. On a un effectif de 35 joueurs. On doit faire des choix. Parfois, ces décisions plaisent moins. Je lui ai juste demandé s'il allait bien. Il m'a répondu que oui, sans problème.
Malgré tout, Patrick, supporter parisien, ne comprend pas le choix de l'entraîneur du PSG.
Messi, c'est pas un joueur qu'on sort. Normalement, il doit rester sur le terrain. Si c'est le choix du coach, il faut respecter. Il a 6 ballons d'or, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'il a été sorti une fois qu'il va pas s'en remettre.
Une sortie qui fait également parler en Espagne au Barça. Personne n'osait demander au monument Lionel Messi de quitter le terrain, sauf blessure. Bref, la gestion des stars à Paris s'annonce très complexe.
Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1. Tiens, mais t'as vu qu'on va encore parler de stars.
And the Emmy goes to The Crown.
Voilà. Les amateurs de The Crown seront comblés, vous en êtes peut-être Dimitri. La série imaginée par Netflix a décroché l'Emmy Award de la meilleure série dramatique et remporté, attention, hein, tous les prix d'acteurs de la catégorie. Alors l'Emmy Award, c'est l'équivalent des Oscars de la télévision.
Voilà, c'est ça, exactement. Et non, j'ai pas vu The Crown, mais il paraît que c'est très bien. Non, j'ai pas vu, ça m'intimide, moi, toutes ces saisons, il y en a trop,
c'est tellement chronophage.
J'ai pas le temps de regarder des séries, moi, mon cher Christophe. Merci en tout cas.